This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Médiacité, qui a interrogé ses lectrices et ses lecteurs pour savoir si les confinements avaient laissé des traces durables dans leur manière de s'alimenter. Le papier s'appelle « Cuisiner à la maison, engouement et désillusion ». C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Armelle Parion.
Bonjour Jean.
Armelle, pendant les confinements, on a beaucoup parlé du fait maison. Nombreux sont les Français qui se seraient mis à la cuisine ou qui auraient renoué avec elle. Derrière cette image se cache sans doute une réalité plus complexe. Nous allons en parler ensemble. Votre papier mêle donc des avis de spécialistes de l'alimentation et des témoignages de lectrices et de lecteurs recueillis par Médiacité Toulouse, mais aussi dans toutes les villes où ce média est présent. D'abord, pour quelles raisons avez-vous eu envie de recueillir ces témoignages ?
Alors déjà, le recueil de ces témoignages fait partie d'une grande enquête participative qu'on appelle « Dans ma ville » chez Médiacité, qui a consisté à interroger en fait nos lecteurs, mais aussi une vingtaine d'experts, sur les pratiques d'alimentation locale. Et notamment, on leur a posé trois questions principales dans un grand questionnaire qu'on leur a fait parvenir en mars dernier, en mars 2021, sur est-ce que vous avez changé vos pratiques depuis le confinement, vos pratiques alimentaires, ou alors depuis plus longtemps que le confinement d'ailleurs. Et donc, c'est à partir de là qu'on a reçu 515 témoignages en tout de nos abonnés. Et moi, j'ai pioché, en fait, dans ces témoignages qui concernaient la question des changements d'alimentation, parce qu'il y avait deux autres questions, donc. Et donc, à partir de là, j'ai pu me servir d'une vingtaine de témoignages, on va dire vingtaine ou trentaine de témoignages qui me semblaient plus forts et plus intéressants sur cette question-là, que j'ai pu compléter par un petit appel à témoins via mes propres réseaux sociaux qui m'a permis d'avoir encore quelques autres interviews complémentaires. Voilà.
Parmi les témoignages que vous avez reçus, est-ce que beaucoup de gens vous ont confirmé cette remise à la cuisine pendant les confinements ?
Alors oui et non, on ne peut pas forcément parler de remise à la cuisine, puisque comme j'explique dans l'article, beaucoup nous ont dit qu'ils cuisinaient déjà, qu'ils aimaient déjà cuisiner. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a renforcé ce goût pour la cuisine chez nombre d'entre eux. Et puis c'est vrai, chez quelques-uns, ça a carrément fait naître un goût pour la cuisine, soit parce que ils cherchaient des occupations un petit peu pour changer du travail à la maison, parce que forcément le télétravail n'avait pas que des bons côtés, il fallait aussi tout faire chez soi, rester dans le même espace toute la journée. Ou alors tout simplement parce que ça permettait de prendre un peu plus de temps en fait pour cette activité. Pour certains, c'était juste nourrir les enfants d'habitude, et là tout à coup on a voulu cuisiner en famille, trouver des recettes, voire les partager avec des amis sur Skype ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a quand même eu en effet cet engouement. C'est une des activités qui était peut-être facile et accessible à tous, et donc qui a pu être renforcée pendant le confinement, quoi. Pendant les confinements.
Dans certains cas, la cuisine a été une manière de décompresser, c'est ça ?
Oui, alors je pense notamment à un témoignage d'un trentenaire qui raconte en fait que c'était carrément un sas de décompression pour son couple. Donc il m'a pas expliqué tous les détails, mais visiblement il se retrouvait en couple pour cuisiner, et ça a permis d'alléger sûrement peut-être les angoisses liées au confinement, le quotidien, et en tout cas ils se sont retrouvés sur cette activité, et ça les a beaucoup marqués, puisqu'aujourd'hui encore ils continuent à cuisiner par exemple. Home cooking is the best, my friend. Cause what you've had, you won't be hungry again. Cause it will nourish you deep within your soul. You won't be eating junk food no more.
Cause this kind of food was prepared long ago by our ancestors way back home. Stirred rhythm brew just for your palate, so when you chop it, you know that you've had it. That's why we give thanks before we eat, to praise the Lord for each tasty beat. So women know your craft, men know your women, cause the secret's all in home cooking. That's really what it's all about. So tell me, will ya, dish it out.
Alors faire la cuisine est une chose, mais le confinement a été l'occasion pour certains de sauter le pas aussi vers une meilleure alimentation.
Oui, en effet. Alors ça, on a beaucoup d'exemples là-dessus. Je ne sais pas si c'est le prisme de nos lecteurs, de nos abonnés, donc ceux qui ont répondu à l'enquête participative qui veut ça. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de témoignages qui allaient vers des expériences, par exemple, de « je fabrique mon pain », j'ai pris des poules à la maison, comme ça on a des œufs frais tous les matins, des choses comme ça. Donc il y a vraiment eu des nouvelles initiatives comme ça, engagées, on va dire, vers des nouvelles pratiques. Donc oui, pour aller vers une meilleure alimentation, on a même des gens qui nous ont répondu dans le questionnaire qui faisaient plus du tout leurs courses en supermarché ou qui essayaient de plus du tout faire leurs courses en supermarché. Qu'ils avaient favorisé le local, les produits de saison. Souvent, encore une fois, c'était des tendances qui étaient déjà présentes dans ces foyers-là. Hein. C'est rarement né comme ça du jour au lendemain. Mais c'était l'occasion, le confinement, de les renforcer, d'y faire plus attention, voilà, de les ancrer peut-être plus dans un quotidien aussi.
À l'inverse, certains de vos témoins expliquent avoir fait un usage encore plus conséquent des emballages plastiques notamment.
Oui, tout à fait. Je pense à une mère de famille, Chloé, à Nantes, qui est maman de deux jeunes enfants. Donc c'est la même pourtant qui nous parle du poulailler. Elle a par exemple pris un poulailler, elle a beaucoup plus fait attention à certains produits locaux et à produire elle-même, enfin à ne plus acheter des produits tout faits, en tout cas des plats tout préparés. Mais elle dit qu'il y a eu aussi des mauvais effets, des effets pervers pendant le confinement dans ses pratiques avec sa famille, puisque notamment ils se sont fait beaucoup livrer par les supermarchés, et donc qui dit livraison, je reprends ces mots, dit beaucoup d'emballage. Voilà, alors elle dit qu'elle a essayé de freiner ça quand les confinements se sont terminés, en essayant de continuer à se faire livrer, mais par des commerces plus éthiques, donc qui utilisent moins d'emballage plutôt, et en tout cas des produits plus recyclables. Mais voilà, elle reconnaît qu'il pouvait y avoir ces effets pervers parfois aussi.
Au cœur de votre papier, il y a cette question sur la continuité. Le fait maison a-t-il perduré ou plutôt été un feu de paille ?
Alors, ça dépend pour qui. En fait, rien n'est complètement noir ou blanc. Mais beaucoup quand même, ce que j'ai trouvé encourageant dans les réponses qu'on a pu obtenir, c'est que beaucoup ont eu envie de continuer sur leur lancée. Donc il y en a beaucoup qui sincèrement disent que forcément ils étaient bien contents de retrouver les restaurants, que ça les a, ils ont un peu relâché la pression parce que cuisiner chez soi, ça pouvait parfois être aussi un petit peu lourd en termes de temps, etc. Mais beaucoup ont quand même continué sur leur lancée. Je pense notamment à un étudiant lillois qui raconte de manière très spontanée que alors qu'il était très habitué au kebab, au resto U, tout à coup il s'est rendu compte qu'il savait cuisiner, qu'il pouvait cuisiner. Parce qu'il cuisinait pas du tout avant, il pensait que c'était trop compliqué. Et lui dit, je suis retournée avec les copains au kebab, évidemment, et dans les fast-foods. Mais par contre, maintenant, on a gardé l'habitude de s'accueillir les uns chez les autres et de se préparer à manger. Et il dit qu'un des grands apports de ces confinements, c'est qu'il s'est rendu compte que quand on cuisinait pour les autres, c'était beaucoup plus agréable et que finalement, ça pouvait être sympa de cuisiner.
Par ailleurs, certains de vos témoins expliquent aussi avoir ressenti le fait de cuisiner comme une vraie contrainte, hein, c'est ça ?
On pense surtout aux familles. Alors, c'était pas toujours la contrainte d'ailleurs pour la maman. Hein. On se rend compte qu'il y a parfois, c'est les papas qui cuisinent plus que les mamans. Mais oui, parfois quand il faut cuisiner pour plusieurs personnes à chaque repas, je pense à notamment une certaine Florence à Lille qui nous a raconté que elle avait insisté tout de suite pour que tout le monde y participe en fait, que ce soit pas elle qui se coltine en gros tous les repas. Donc on sent derrière quand même la contrainte. Et puis une autre femme d'une cinquantaine d'années qui raconte que c'était pas toujours vraiment un plaisir de cuisiner pour des ados un peu blasés, voilà. Donc c'était pas facile de trouver en fait les bons menus qui correspondent à toute la famille. Et que alors que la cuisine était pour elle un vrai plaisir, elle se décrit comme une cordon bleu d'habitude. Et ben là, pendant les périodes de confinement, c'était quand même moins agréable en fait.
Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours.
Il y a un point qui est aussi généralement peu abordé, mais dont vous parlez dans votre papier, c'est celui de la paupérisation des travailleurs précaires. L'obligation de prendre ses repas à la maison a aussi eu des répercussions dans certains cas.
Des répercussions négatives, oui, il y en a eu, parce que, en fait, ce que nous explique très bien le sociologue Jean-Pierre Poulain, auquel j'ai posé plusieurs questions parce qu'il est spécialisé dans l'alimentation et qu'il a un éclairage là-dessus. Qu'il explique très bien, donc, ce sociologue, c'est que bah, pendant que certains se faisaient plaisir à cuisiner, il y en a d'autres pour qui le fait de devoir rapatrier tous ses repas à la maison, ça représente, d'après lui, environ 200 à 250 repas par an, quand même, avec les confinements qui du coup, passent à la maison alors qu'ils étaient à l'extérieur avant. Et ben c'était aussi des coûts supplémentaires parce que ceux qui fréquentent beaucoup les restos ou les cantines d'entreprise ont dû un peu mettre la main au porte-monnaie, si je peux m'exprimer ainsi. Et voire même pour certains, le confinement a nécessité d'aller faire la queue au Resto du Cœur. Jean-Pierre Poulain rappelle que en septembre 2020, on comptabilisait 100 milliards d'euros d'épargne forcée supplémentaire du côté des plus riches, mais qu'on a aussi eu 1 million de personnes supplémentaires passées sous le seuil de pauvreté. Donc voilà que c'est aussi une question de contexte, ce cuisiner maison, et que pour certains, c'est un petit refrain, positif et plutôt joyeux, alors que pour d'autres, ça a été vraiment une contrainte, en fait, financière. J'entends.
Une dernière question, Armelle. Vous l'avez dit, cet article s'inscrit dans un cadre plus global de dialogue avec les abonnés de Mediacité. Cette démarche-là, pourquoi la menez-vous ?
Alors, pour nous, chez Mediacité, il est très important, en fait, de restaurer ce lien de confiance avec nos lecteurs et surtout de leur faire comprendre que sans eux, sans lanceurs d'alerte parfois, parce qu'on a quand même des sujets qui ne seraient jamais nés sans qu'on ait des lanceurs d'alerte sur certains autres champs de nos investigations. Donc sans les lecteurs, on ne pourrait pas enquêter aussi bien qu'on essaye de le faire. Et du coup, aller tout simplement les sonder sur leurs pratiques, c'est recréer un lien entre les lecteurs et les médias et pas parler de notre tour d'ivoire, mais aussi être plus en lien avec eux. Et tout simplement, c'est une grande richesse parce que, dans ces témoignages, on apprend plein de choses. Ça nous a permis aussi de croiser avec les paroles de plusieurs experts qu'on a identifiés dans chacune de nos 4 villes. Et en fait, tout ça nous a donné un matériau très intéressant pour démarrer nos enquêtes. L'idée, c'est de dire, on est journaliste, certes, c'est notre métier, mais au lieu de démarrer nos enquêtes depuis le point de vue que nous, on choisit, on va les démarrer depuis les retours qu'on a du terrain, en fait, tout simplement.
Merci beaucoup, Armelle Parion, d'avoir été notre invitée. Je rappelle le titre de votre article qui est à retrouver sur le site de Mediacité. Il s'appelle « Cuisiner à la maison, engouement et désillusion ». C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Mathilde Leuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.